Voici Alain Baraton, bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour mon cher Alain.
Et j'en profite si vous le permettez, bonjour à Gisèle, c'est ma maman, je voulais l'embrasser.
Oh, c'est gentil.
Bonne fête maman.
C'est comme ça, ça vous évitera de lui offrir des fleurs.
Alain Baraton, on passe des fleurs aux fruits avec vous ce matin. Les groseilles, le groseillier, il n'existe non pas un d'ailleurs, mais trois type de groseillier.
Oui, j'avais envie ce matin de vous parler de cet arbuste, parce que j'en ai dans mon jardin. Je trouve que cette année, c'est pas une année à groseille. Je me trompe peut-être, mais il y a très peu de groseille. D'où l'idée de dire, eh ben, et si je parlais de groseille? Alors, il en existe effectivement trois types. Le plus cultivé étant le groseillier à grappes. Il produit des fruits le plus souvent rouges, mais il en existe des blancs.
Des blancs, oui.
Oui, le groseillier noir ou cassis ou encore cassissier. Et enfin, le groseillier à macro.
Le groseillier, il est originaire de quel pays, quelle région du monde?
De toutes les régions du monde, pour peu qu'elle soit située à l'hémisphère nord, ce qui explique pourquoi l'arbuste n'est pas frileux en France. Et ça, on le sait peu, il est même possible d'en trouver à l'état sauvage et de se régaler de leur baie dans toutes les régions montagneuses ou presque.
Le nom de groseille, ça vient d'où?
Eh bien, de crusil, un terme francique qui désignait les baies de la groseille à macro. L'origine de son appellation botanique, elle, est beaucoup plus subtile et mérite un petit développement.
Et là-dessus, tout a commencé avec les guerriers perses.
Oui, des hommes qui se délectent d'une plante assez proche de la rhubarbe, le ribasse, apprécié pour ses qualités laxatives. Quand les Perses envahissent l'Espagne dans les années 700, ils en cherchent mais n'en trouvent pas. Il découvre alors la fameuse groseille rouge, en mange et la trouve délicieuse. Chose étrange, ils sont persuadés qu'elle possède alors les mêmes qualités que le ribasse.
Et donc les Perses ne s'embarrassent pas, ils nomment donc ce groseillier ribasse.
Eh oui, quelques siècles plus tard, les botanistes sont perplexes. Comment est-il possible que deux plantes portent le même nom? Eux aussi ne s'embarrassent pas et se contentent de latiniser le mot ribasse en ribes, le nom actuel et officiel du groseillier.
Allez, une idée reçue, vous allez la confirmer ou l'infirmer. Les groseilles sont vraiment laxatives?
Il paraîtrait que oui. J'ai lu il y a peu qu'elles régulaient le transit et facilitaient aussi la digestion. Au début du 19e siècle, voici comment les ouvrages de pharmacie parlaient de la petite baie. Les groseilles sont rafraîchissantes et favorables au flux de ventre. J'adore ce terme,
le flux de ventre.
Attention Eric, toutefois ne pas trop en manger, car il est aussi écrit qu'elle tempère les ardeurs du sang, ce qui veut dire, pour être clair, que la groseille calme les tempéraments fougueux.
Comment pouvez-vous, mon cher Alain Baraton, dire que vous n'aimez pas la rhubarbe et nous faire l'apologie de la groseille?
J'aime bien la rhubarbe comme plante ornementale, les rhubarbes en plantes décoratives sont magnifiques, mais je trouve à la rhubarbe un petit côté acide.
Et pas les groseilles?
La groseille en mélange avec quelques fraises et quelques framboises est magnifique.
Si vous mélangez, oui.
Je vais vous avouer pourquoi j'aime les groseilliers. Je ne parle pas du fruit, mais de l'arbuste. C'est que les fruits arrivés à maturité attirent quantité d'oiseaux. Mm-hmm. Et je trouve sublime le spectacle des merles dans un groseillier en train de se délecter.
Se régaler.
Eh bah oui.
Allez, à présent, vos conseils et vos réponses aux auditrices et auditeurs de France Inter qui nous ont écrit sur franceinter.fr. Cyril, par exemple, voudrait vous parler de son citronnier. Il mesure 60 cm, il a produit un citron vert et la compagne de Cyril veut le manger, ce citron vert. Mais Cyril n'est pas certain que ce citronnier d'ornement soit comestible. Qu'en pensez-vous, Alain Baraton?
Je ne vois pas de citronnier qui produirait des fruits qui ne soient pas comestibles. Attention, si le citron est vert, c'est peut-être pas un citron vert, c'est peut-être un citron qui à maturité est jaune. Attendons peut-être, soyons prudents.
Il existe... Mais tous les citrons verts ne sont que de futurs citrons jaunes, non?
Non. Vous avez des citrons qui restent
vraiment verts.
Il y a une très grande...
Il n'y a pas de citron rouge.
Non, pas à ma connaissance, mais il y a au moins une bonne vingtaine de citronniers différents. Je pourrais vous citer le citronnier doux, le Villafranca, le citronnier caviar qui est très à la mode, le yuzu, c'est un citronnier, citron...
Le yuzu,
c'est oui, qui est très apprécié dans l'art culinaire japonais. Le citronnier des quatre saisons, donc il y a quantité de types de citrons, donc de citronniers. Je ne connais pas, mais je peux me tromper, de citron qui ne soit pas comestible.
Alors je vais lire à présent comme je l'ai sous les yeux. Maud a un chénopode ou chénopode?
Chénopode.
Chénopode, c'est bien le chénopode blanc dans son jardin. Il a donné des feuilles et des graines l'été dernier. Il reste nu à présent, est-ce que c'est normal? Et que faire si c'est anormal?
Il faut se méfier parce qu'on confond souvent le chénopode blanc, qui est également appelé l'épinard sauvage. C'est une plante qui a un intérêt gustatif, mais c'est une plante terrible qui est considérée comme très très, très, très envahissante. Et je pense à tous les agriculteurs qui nous écoutent. C'est la terreur du paysan quand elle se met dans un champ. Elle peut faire des dégâts épouvantables. Et puis, vous avez également donc le chénopode, l'épinard en arbre. Et là, c'est différent. C'est une plante originaire d'arbre, d'Inde. C'est une plante qui peut atteindre allez, 1 mètre, 2 mètres de hauteur, qui est effectivement à côté là encore très décoratif et qui est vivace. Donc, si il n'y a pas de feuilles maintenant, non, il y a un problème. Peut-être que la plante est morte tout simplement. Mais vous savez, les végétaux peuvent parfois nous surprendre. Les plantes vivaces sont certaines années magnifiques, d'autres elles le sont moins, et elles réapparaissent. C'est la magie de la nature. Je vous parlais de mon groseillier. Bah, mon groseillier, depuis 15-20 ans, produit des fruits à profusion. Cette année, quelques malheureuses petites baies. Pourquoi? Je n'en sais rien. L'environnement n'a pas changé, il n'y a pas eu de produits qui ont été mis, pas plus d'oiseaux que d'habitude. Donc les plantes sont des êtres vivants, ne l'oublions jamais, et ont parfois un comportement qui nous dépasse.
À propos des pieds de tomates à présent, Simon les a semés il y a quelques mois, et ces pieds de tomates semblent avoir arrêté de pousser, dit-il, après une belle croissance. Cela touche tous mes plants, aussi bien ceux qui sont en pot que ceux qui sont en serre.
Quand une croissance est bloquée et qu'elle touche des végétaux issus de différentes graines, produits dans différentes conditions, c'est un problème environnemental. Ça vient pas de la graine, ça vient pas de la terre, c'est forcément quelque chose qui a bloqué. C'est certainement un changement climatique. Les tomates sont des plantes qui, là encore, réagissent à la température, à l'hygrométrie, à l'ensoleillement. Quantité d'éléments peuvent favoriser ou non la croissance. Il faut donc attendre. Et ça, je pense que la situation devrait se rétablir très vite.
Allez, le conseil du jour pour terminer.
Une promenade extraordinaire. Les jardins de Quercy, c'est à Verveille-sur-Seille, c'est dans le Tarn-et-Garonne. C'est un jardin composé en fait de plusieurs jardins avec des grands thèmes thématiques comme l'Espagne, l'Australie, l'Inde, la Grande-Bretagne, etc. Il y a un petit jardin à l'anglaise qui est une petite merveille. C'est entretenu avec soin, labellisé jardin remarquable. Le prix d'entrée, 6€ par personne. Vous me direz, c'est pas cher. Et en plus, c'est intégralement reversé.
Mais surtout si vous payez pour vous, puis que chacun paye pour soi.
C'est pas très grave, parce que je veux dire, pourquoi je serais même prêt à vous payer votre place? Parce que l'intégralité des droits d'entrée sont reversés à l'association, tout à l'école. Vous savez, cette association, c'est merveilleux. Ce sont les jardins du Quercy à Verfeuille-sur-Seille. C'est dans le Tarn-et-Garonne.
Merci Alain Baraton, et reviendrai la semaine prochaine.
Si vous le souhaitez.